Le rapport pour tout ce qui est innovation, technologie et l'impact que ça peut avoir, y compris pour ce qui concerne l'Afrique et pour ce qui concerne les filles et les femmes, comme vous pouvez le deviner, n'est pas favorable. Nous avons, je pense, 27% de filles qui ont accès à Internet, qui ont accès à certains outils technologiques. Nous avons des jeunes filles qui peut-être n'ont pas accès même au téléphone mobile. Nous avons des jeunes filles qui, en milieu rural, n'ont accès ni à l'un ni à l'autre et sont également un peu bloquées par les pesanteurs socio-culturelles parce que tout simplement, on ne les voit pas faire cela parce qu'elles sont des filles et on ne s'attend pas à cela. Ça, c'est un aspect qui est réel. L'autre aspect qu'on voit et qui nous inquiète beaucoup, c'est que même quand elles y ont accès, elles sont beaucoup plus vulnérables par rapport aux inconvénients qu'on trouve aujourd'hui dans l'utilisation de la technologie. La technologie peut être utilisée pour avancer des causes, pour autonomiser des femmes, mais elle peut être utilisée également pour détruire des femmes. Et on voit ça de plus en plus au niveau politique, une violence extrême qui utilise la technologie pour bloquer des femmes et ça intimide certaines qui préfèrent ne même pas s'engager pour ne pas se retrouver victimes. Une dame expliquait dans un des événements parallèles auxquels j'assistais que c'est en ayant donné son téléphone pour être réparé que des images ont été récupérées par celui qui réparait et ces images ont été utilisées et ça a presque détruit sa vie. Parce que tout simplement, c'est arrivé à des niveaux qu'elle ne pouvait plus contrôler. Donc tout ça constitue des éléments que nous devons prendre en compte en Afrique. Comment faire ce travail d'éducation très jeune, aussi bien au niveau des garçons que des filles, pour expliquer l'importance d'avoir accès à la technologie, aux innovations, parce que le monde d'aujourd'hui est déjà un monde qui est basé sur la technologie et sur l'innovation. Et si les jeunes Africains ne sont pas au rendez-vous, ils seront déconnectés. Comment expliquer aux parents l'appui qu'ils peuvent apporter pour que cette utilisation des technologies se fasse de manière responsable? Comment également inciter les gouvernements à investir plus pour s'assurer que leurs citoyens soient dans de bonnes conditions pour pouvoir exploiter ces énormes possibilités que la technologie et les innovations nous apportent. Mais de l'autre côté aussi, comment former les gens? Comment s'assurer que chaque personne soit un agent qui permette de surveiller, d'aider, d'inspirer et surtout de motiver à ce que les méfaits de la technologie soit amoindrie. On ne peut pas les éliminer, mais qu'ils soient amoindris pour nous permettre d'avoir une bonne utilisation de
ces utilisateurs. Des utilisateurs responsables.
Des utilisateurs responsables, mais l'utilisateur responsable doit être probablement sensibilisé par des leaders qui comprennent ce que c'est que l'utilisation de la technologie et qui peuvent orienter dans un sens qui permette que ça puisse aider plutôt que ça ne nuise. Donc c'est un peu à ça que nous appelons et il y a une déconnexion quand vous allez dans les familles. Les plus jeunes savent mieux utiliser les outils technologiques que leurs parents et quand nous allons dans certains milieux, les leaders d'opinion, qu'ils soient des leaders traditionnels, des leaders politiques, des leaders religieux, sont très souvent déconnectés et peuvent ne pas comprendre comment influencer ou comment sensibiliser pour que l'utilisation se fasse de manière adéquate. C'est tout un programme, c'est tout un combat, mais je pense qu'ensemble, avec ce qui va sortir de CSW de cette année, dont le thème, à notre avis, est un thème extrêmement pertinent, avec ce qui va sortir d'ici, nous espérons avoir plus d'éléments qui nous permettent d'avancer dans cette recherche et dans ce combat.
Il y a des initiatives que vous avez déjà menées en tant que représentante de NUFAM et devant l'Union africaine et pour l'Afrique de l'Est aussi. Par exemple, je pense aux filles africaines qui savent coder. Est-ce que vous pouvez donner un aperçu de cette initiative? Est-ce qu'il y a des exemples phares qui en ressortent?
Oui, l'initiative des filles africaines qui savent coder est une initiative conjointe entre ONU Femmes et l'Union africaine, avec la participation d'entités du système des Nations Unies, l'Union technologique, donc IUT, ensuite UNICEF et puis UNESCO. Donc c'est une initiative qui cible les filles âgées de 17 à 25 ans. Et nous sommes actuellement dans 11 pays qui sont répartis un peu partout en Afrique. Et dans chaque pays, le programme vise 4 composantes. Le premier, c'est tout ce qui concerne la formation. Donc former les filles qui sont identifiées pour le codage. Et cette formation se fait dans des camps de codage qui durent 2 semaines. Et pendant lesquelles les filles sont formées et sont dotées d'équipements qu'ils peuvent utiliser. Et ça leur ouvre des opportunités d'emploi et des opportunités d'affaires. La deuxième composante, c'est la campagne médiatique. Vous parliez tout à l'heure des efforts qu'il faut faire pour s'assurer qu'il y ait une meilleure utilisation des outils technologiques, de la technologie et des innovations. Le volet médiatique, justement, sert à s'assurer que ça quitte le camp de codage et que ça puisse toucher les autres parties prenantes, y compris les gens du secteur privé qui sont dans la zone et qui peuvent aider. La troisième composante concerne la plateforme électronique qui a été mise en place et qui est dirigée par l'Académie de l'UIT. Et cette plateforme sert aux jeunes à venir télécharger les applications qu'ils développent, mais à échanger également entre eux pour pouvoir se soutenir mutuellement. Donc nous pensons que c'est une plateforme extrêmement puissante. Et la quatrième composante, c'est l'institutionnalisation. Dans chaque pays où nous allons, nous travaillons avec 3 ministères. Le ministère du genre, le ministère des technologies et le ministère de l'éducation. Et nous avions fait une rencontre avec les 3 de chaque pays pour élaborer avec un plan d'action, un plan de travail. Et l'idée, c'est que dans chaque pays, sous le leadership du ministère de l'éducation, le travail de codage qui est fait, la formation qui est faite et tous ces outils que nous avons déjà développés, nous avons développé des outils qui sont déjà disponibles, y compris des guides, que ces documents puissent être récupérés et intégrés dans le curriculum scolaire, ce qui va permettre d'avoir cela dans les formations qui se mènent au niveau des pays. Les groupes que nous ciblons ne sont pas très grands. Et c'est à travers cette institutionnalisation que nous parviendrons à une sorte de généralisation. Et nous appelons à cette généralisation parce que c'est ça qui permet de faire bouger les lignes. Et c'est en faisant bouger les lignes qu'on aura une masse critique qui aura un impact important sur l'évolution de la société, mais également sur la vie des citoyens, y compris les jeunes filles.
Alors justement, je vais vous demander de revenir sur un exemple phare ou deux qui vous interpelle particulièrement.
Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de cette jeune fille qui, en RDC, avait fait le codage. Je pense qu'elle devait avoir 20 ans. Et après avoir fait le codage, sa maman se présentait pour une campagne électorale. Elle n'avait pas les moyens de pouvoir aller sur le terrain, de financer. À partir de ce qu'elle a appris, elle a pris une photo plus professionnelle de sa maman. Elle l'a aidée à créer un compte Facebook, un compte Instagram, etc. Donc, différents comptes. Et elle a aidé sa maman à développer un contenu. Et ainsi, sa maman a eu des abonnés avec qui elle pouvait partager des informations, surtout qu'elle l'a aidée à développer des flyers. Avant qu'elle ne se rende compte, les amis de sa maman qui ont été informés ont tous afflué. Et elle a dit, de cette formation que j'ai eue en tant que jeune fille, je me suis retrouvée à donner des cours à des adultes qui ont 2 fois, 3 fois mon âge, qui ont l'âge de ma maman, et j'ai vu qu'elle me regardait différemment. Et je me suis également rendu compte que le peu que j'avais appris pouvait aider à influencer le parcours politique de ma maman. Et parmi le groupe, celles qui ont été élues, elles n'étaient pas nombreuses parce que la compétition était dure. 1 ou 2 ont été élues et celles-là, je les regarderai toujours en me disant, j'ai fait une petite contribution à cela. Pour moi, ça, c'est important. L'autre exemple, c'est cette jeune fille qui a fait une invention qui permet de pouvoir donner et avoir accès à des informations pour sa communauté dans une langue nationale. Et elle dit que quand elle allait pour commencer ses cours, elle ne se rendait pas compte comment on pouvait faire le lien entre des cours dans une salle et l'amélioration de l'accès à l'information, y compris sur la santé au niveau de sa communauté. Donc, ça lui a permis, elle aussi, de pouvoir se rendre utile, mais de pouvoir également peut-être gagner un peu sa vie et se professionnaliser. J'ai cette jeune fille du Sénégal qui est assez connue, qui également non seulement a appris à travers le codage à développer des contenus, mais elle est aujourd'hui en train de donner des cours à d'autres jeunes filles de son âge ou des jeunes filles un peu plus âgées. Et tout ça, elle l'a appris à partir de ces camps de codage. Donc, c'est de petits exemples, mais qui montrent comment, avec plus de ressources, on aurait pu toucher plus de personnes. Parce que je dois dire, et ça, il faut que j'insiste dessus, la première phase du projet a été appuyée par le Danemark. La deuxième phase est actuellement appuyée par la Belgique, par l'Allemagne à travers Siemens et par la Finlande à travers le Comité national ONU Femmes. À tous ces partenaires qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à l'Union africaine pour appuyer cette initiative, nous disons un grand merci. Nous profitons aussi de cette opportunité pour demander à plus de partenaires de s'investir, de pouvoir aider plus de jeunes filles à accéder à la technologie parce que ça permet de changer radicalement leur futur. Ça permet de donner plus de possibilités à une génération importante puisque les jeunes constituent une écrasante majorité en Afrique. Leur donner ces opportunités-là et peut-être, à notre avis, le moyen le plus efficace de réduire ce gap numérique dont on parle tant. Et j'espère que nous aurons plus de partenaires qui vont se manifester pour nous aider à faire avancer ces initiatives.
En fait, les bénéfices sont multiples. C'est à la fois l'éducation, la pénétration de la technologie, le transfert des informations et de la formation entre les générations aussi, c'est un raccord, un tissage de la société aussi.
Absolument. Et je voudrais bâtir sur ce que vous venez de dire. Quand je dis aux partenaires, les grandes compagnies de téléphonie, c'est un win-win, hein? C'est un appui gagnant-gagnant. Parce que, justement, le taux de pénétration de la téléphonie n'est pas aussi complet qu'il aurait pu l'être. Quand vous appuyez des jeunes filles qui comprennent mieux comment utiliser la technologie, vous créez également un marché pour vous-même. Parce qu'une fille qui est formée dans ce domaine va aller former les membres de sa famille d'abord, mais va également former les membres de sa communauté. Et le besoin va être créé. Et quand le besoin est créé, il faut répondre à ce besoin. Et là, il y a des ressources qui peuvent être là, qui peuvent être utilisées pour accéder à certains outils qui sont vendus par ces compagnies. Donc, la pénétration, elle est extrêmement importante. Ça permet d'assurer plus de sécurité parce que je sais qu'il y a des inventions qui permettent d'aider des filles qui se seraient fait violer autrement, d'aider à alerter. Donc ça, ce sont...
J'allais justement vous demander un des volets, une des quatre thématiques principales qui a été discutée tout au long de la semaine, c'est la sécurité et l'utilisation de la technologie. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous aviez participé à un événement sur, par exemple, le Congo.
Oui.
Et je sais qu'il y a eu des initiatives par rapport à la téléphonie et à la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un aperçu du rôle que jouent ces technologies à la protection et à la sécurité des femmes et des filles?
Je sais que, et j'envoie mes salutations aux auditeurs de la RDC qui nous écoutent. C'est un pays où j'ai passé 6 ans, où j'ai gardé d'excellents souvenirs et beaucoup d'amis. Et je pense également à toutes ces populations meurtries de ce pays. Et nous souhaitons que la paix puisse s'installer de manière définitive dans ce pays. Parce que si la paix s'installe dans ce pays, la paix sera dans la région. Et si elle est dans la région, elle sera dans toute l'Afrique. Ceci dit, nous avons effectivement eu des informations sur des jeunes filles parce que vous connaissez le taux de violence sexuelle dans la zone. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées par différentes parties prenantes, mais il y a des inventions qui ont été faites par des jeunes filles, par des jeunes garçons, tendant non seulement à rendre plus difficile certains actes délictuels ou criminels par certaines personnes, mais quand ça doit se passer, qu'il y ait des moyens d'alerter et au moins des moyens de pouvoir découvrir quand ça s'est déjà passé, des moyens de pouvoir retrouver des éléments qui puissent permettre d'amener les auteurs devant la justice. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas les moyens technologiques pour pouvoir prouver ce qui s'est passé.
Donc, c'est des prises d'images, des prises d'images. Boutons qu'on appuie.
Voilà, il y a un modèle qui nous a été présenté où c'est comme un collier qu'on porte. Et dès qu'il y a un risque, on appuie sur un bouton et ça dégage un bruit et ça commence à enregistrer. Et en général, avec ce bruit strident que ça fait fuir la personne, mais ça permet également d'enregistrer des sons, d'enregistrer des images. Ce sont des prototypes qui existent. Nous espérons que ces prototypes pourront être portés à l'échelle parce que, au moins, avec ça, si le volet prévention, parce que l'idéal, c'est de faire la prévention. On n'en a pas toujours les moyens. Si la prévention n'est pas efficace, au moins, ça pourra dissuader certains de mener ces actes criminels. Et par malheur, si ça se passe, qu'on puisse au moins trouver les éléments qui permettent d'amener ces criminels devant la justice et de les amener à payer pour ce qu'ils ont fait. Donc, pour le moment, ce sont quelques exemples épars dont on nous a parlé ou qu'on nous a présentés. Nous espérons que, avec le temps et dans pas longtemps, on parviendra à faire une consolidation de ces pratiques les plus pertinentes, aussi bien en RDC que dans d'autres pays, et de pouvoir soutenir leur expansion pour qu'on puisse couvrir le continent africain. C'est possible, ça ne coûte pas trop cher. Il y a une volonté politique qui se détermine de plus en plus, y compris au niveau de l'Union africaine. Je pense que si les partenaires suivent avec quelques appuis financiers, les gouvernements continuent à assurer le leadership, on devrait arriver à des résultats.
Je pense en fait aux victimes de ces crimes, de ces violences. Les conséquences sont terribles. On a des appréhensions par rapport aux autres et comment se reconstruire. Est-ce que la technologie là aussi peut... Est-ce qu'il y a des programmes de technologie qui sont là aussi mis en œuvre pour permettre aux victimes de se reconstruire et de se remettre petit à petit?
Il y a des initiatives qui ont été prises et qui continuent à se prendre au niveau de différents pays. Et on a eu des résultats. Vous savez que quand il y a un crime sexuel, il y a 4 volets d'appui. Il y a la prise en charge médicale, c'est elle qui est immédiate, qui est importante. Il y a la prise en charge légale pour s'assurer que toutes les procédures sont prises pour éviter que l'auteur, une fois pris, ne trouve un gap qu'il va utiliser pour s'en sortir. Il y a la prise en charge psychosociale, c'est extrêmement important parce que la personne doit se reconstruire et la personne est détruite de l'intérieur. Il y a la prise en charge économique et le relèvement économique. Parce que souvent, la personne sort de là-bas en perdant son outil de travail, en perdant son business, et il faut l'aider.
Elle est sortie de la société, en fait.
Oui, elle est marginalisée, elle est stigmatisée, alors que l'auteur, parfois, marche libre. Parfois, l'auteur est dans la communauté, mais parce que c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui bénéficie de soutien, rien ne lui arrive, et la victime est doublement marquée. Elle est physiquement touchée, elle a ses séquelles avec lesquelles elle devra vivre, mais elle est mise en marge de la société et c'est tout juste si elle n'est pas accusée d'avoir provoqué ce qui lui est arrivé. Donc, le relèvement économique est extrêmement important. Et à ce niveau-là, je sais que quand moi j'étais en RDC, nous avions élaboré une stratégie qui avait permis de cibler parmi les survivantes certaines à qui non seulement des ressources financières ont été données, mais également une formation a été donnée pour leur permettre d'utiliser justement la technologie pour se reconstruire. Un autre exemple que je donne et qui m'impressionne beaucoup, nous avons une partenaire qui a une initiative qui s'appelle I Am the Code et qui est allée dans un camp, le plus grand camp de réfugiés du Kenya, pour y créer une académie sur la digitalisation. C'est la première académie du genre et ce sont des réfugiés qui sont là-bas, qui sont de différentes nationalités et qui bénéficient de cette académie, qui sont formés sur les métiers de codage, sur les langages. Et en faisant ça, non seulement on leur redonne de l'espoir, mais on leur donne la possibilité de gagner leur vie. Donc, des exemples de ce genre, il y en a plusieurs. Mais encore une fois, je pense que le travail de recensement doit se faire. Il faut qu'on fasse la cartographie de ces expériences pertinentes. Certaines ont été partagées durant les travaux de CSW. Je pense qu'on a intérêt à consolider ces différentes cartographies et à pouvoir les présenter de manière à valoriser ce qui se fait déjà, mais de manière également à créer des ponts entre les différentes initiatives, renforcer la coordination entre les partenaires qui peuvent parfois intervenir dans un même pays sans se connaître et permettre ainsi de créer des vocations qui vont certainement prolonger les initiatives individuelles qui se font. Et c'est peut-être en ce moment-là qu'on pourra mieux inciter les gouvernements à travers des appels pressants à jouer leur rôle qui est d'assurer plus de possibilités pour que ces initiatives-là ne soient pas perdues ou ne soient pas localisées à un niveau où elles ne peuvent pas servir. Vous savez que quand quelqu'un a investi autant de temps et d'énergie pour faire une invention technologique, il faut l'aider à vivre de cela. Autrement, ça va être difficile. Et ce sont des jeunes qui s'investissent dans ce domaine, qui sont particulièrement brillants, qui sont très courageux, très résilients. Et nous espérons que le CSW de cette année va être un nouveau départ pour eux tous.